France Inter, le 6-9 de l'été, Amélie Perrier.
Mais c'est l'heure idéale pour un tour au jardin, surtout en compagnie de vous, Alain Baraton.
Ce forum, bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous êtes notre main verte et vous nous emmenez d'abord, Alain, au Parc Floral de Paris, parce qu'il possède une magnifique collection de dahlias.
Et oui, elle est même si belle que ce jardin est officiellement reconnu collection agréée de dahlias botaniques et cultivars. Ça ne plaisante pas. Alors il est donc possible, à tous les amoureux de cette plante, et ils sont nombreux, eh bien d'en contempler des centaines de variétés. Quand je dis des centaines de variétés, ça veut donc dire des milliers de spécimens. En septembre, le parc floral attire des gens très sérieux, avec plein de notes, des crayons, des papiers. Et ben, ils viennent juger les fleurs les plus belles, car c'est ici, dans ce parc botanique, que qu'est organisé le concours international du dahlia.
D'où l'intérêt de venir visiter le jardin cet été.
Oui, parce qu'il va vous permettre enfin d'apprécier le travail des obtenteurs qui viennent ici présenter leurs créations et donc de découvrir des plantes que vous ne connaissez pas, et avant tout le monde.
Et depuis quand est-il possible d'apprécier ces dahlias en France?
Depuis la fin du XVIIIe siècle, mais leur culture alors reste confidentielle, réservée à quelques collectionneurs, et pour une raison simple, les premiers dahlias sont importés pour être mangés. Les botanistes sont alors persuadés que les tubercules de dahlias peuvent rivaliser avec les plants de pommes de terre, et ils le cultivent dans le potager comme plante aromatique.
Ah oui.
Oui, sauf que quand les cuisiniers prennent le relais, et malgré leur talent et nombre de recettes inventées, le résultat est toujours identique. Le dahlia est indigeste et il finit à la poubelle.
Ah, les jardiniers finissent quand même par apprécier la plante, eux.
Oui, et en particulier en 1802, la date est précise, quand un dahlia fleurit pour la première fois au Jardin des Plantes de Paris. Et l'histoire se répète. Le blocus international contre la France affame les populations et l'empereur Napoléon l'exige. Il faut manger du dahlia. Les cuisiniers se remettent au fourneau et là encore, personne n'en veut.
Ça ne marche pas. Les jardiniers, toujours aussi sages, continuent donc, eux, de cultiver les plantes pour leur beauté.
Et oui, de nouvelles variétés sont créées et le tout premier dahlia blanc fleurit dans les serres du parc de Saint-Cloud. Nous sommes en 1809. Depuis, il est possible de posséder et d'admirer dans les jardins des dahlias pompons à fleur d'anémone, de pivoine, de camélia, d'orchidée et le dahlia cactus dont la fleur rappelle celle logique d'un cactus.
Une dernière question Alain, pourquoi ce nom dahlia?
Pour rendre hommage à Anders Dahl, un botaniste suédois mort, c'est pas un hasard, en 1789.
Ah oui, ça vous parle, vous, les jardiniers Versailles. On passe aux questions des auditeurs.
Il y a quand même conscience qu'à Versailles, on n'aime pas tellement toutes ces histoires de 14 juillet.
Non, je vois votre grande honnêteté intellectuelle ce matin. Alors, la question de Claude, il nous demande, ma lavande est âgée, elle se dégarnit de la base, que puis-je faire?
Je vois votre petit sourire, il n'y a pas que les lavandes qui se dégarnissent avec l'âge.
Pas du tout.
Pour les lavandes, on peut éviter que ça se produise. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Quand vous taillez trop court une lavande, vous taillez ce qu'on appelle sur le bois, et le bois ne fera pas de rejet, ne fera pas de nouvelles pousses, sauf exception. Alors que faut-il faire? Quand vous avez une lavande dans votre jardin et qu'elle vient de fleurir, vous coupez immédiatement, vous taillez immédiatement après la floraison, juste en dessous de la fleur. Vous avez les feuilles, la petite tige des fleurs, vous coupez légèrement en dessous, et cette taille permettra à la plante de garder de la vigueur et surtout de conserver son feuillage dense pour éviter effectivement que le coussin qui faisait votre fierté il y a encore quelques temps devienne une sorte de truc sans forme qui n'est vraiment plus terrible.
Alors Paula, elle vous demande s'il est vrai qu'il est conseillé de supprimer les fleurs de géranium avant de partir en vacances.
Il est toujours sympathique de se dire qu'en votre absence, le géranium continue de faire le beau et de faire la joie de vos voisins. Certes, mais vous n'en profitez pas. Pendant que vous êtes en vacances, en train de vous reposer, votre géranium, il souffre. Il souffre parce que la fleur lui demande beaucoup d'efforts. Alors, évidemment, il est conseillé, au moment de partir, de supprimer pas seulement les fleurs, mais de supprimer également les boutons à venir. La plante se dit, j'en profite pour faire du feuillage, j'en profite pour faire de la belle racine, je réduis mes besoins en eau, et quand vous revenez dans 15 jours, dans 3 semaines, voire dans un mois, si vous avez cette chance de partir longtemps, vous avez non pas devant vous un géranium, mais le géranium, qui là, par contre, a eu le temps de reconstituer les fleurs. Il est magnifique. Vous le réarrosez et vous verrez, il sera superbe.
Le géranium. Géraldine nous a écrit aussi. Elle nous dit, j'ai un splendide oranger en pleine terre qui me fait de magnifiques feuilles, bien vertes, mais jamais de fruits. Ah oui, c'est dommage. Pourquoi?
Étiez-vous doué en chimie à l'école?
Pas vraiment, j'étais plus une littéraire, moi, vous savez.
On va quand même vous parler de chimie un court instant.
Une plante,
pour faire simple, elle a besoin de quatre éléments principaux. Le carbone, bien évidemment, et elle a également besoin d'azote, de phosphore et de potassium. Quand vous achetez de l'engrais, un sac d'engrais, c'est marqué sur le sac NPK.
Oui,
et
ça.
On a souvent tendance, quand on pense à mettre de l'engrais, à mettre de l'azote. L'azote favorise le développement du feuillage. Alors j'en déduis que cet oranger, il est bombardé d'engrais, donc déjà, un, on pollue plus ou moins, deuxièmement, on dépense de l'argent pour rien, parce que la plante, eh ben, elle est heureuse, elle fait de jolies feuilles, mais pendant ce temps-là, elle fait pas de fruits. Alors il fallait mettre du potassium. Donc arrêtez de déséquilibrer les plantes, laissez donc la nature agir, ne mettez plus rien, et vous verrez, très rapidement, la plante va retrouver un cycle normal. Contentez-vous simplement, quand l'oranger en a besoin, de lui donner de l'eau.
La nature, rien que la nature,
mais,
Alain.
Mais évidemment, mais évidemment.
Diane, quel joli prénom, elle nous dit, plusieurs de mes tuyas sont devenus roux, est-il possible de les sauver?
On fait simple, c'est généralement dû à une variété de Phytophthora, un champignon terrible. Je n'ai jamais vu en 40 ans de métier un conifère reverdir. Pire, si on laisse le conifère dans la haie, il va contaminer l'ensemble.
Ah oui.
Alors c'est dû généralement aux tailles abusives. J'observe que les tuyas qui ne sont jamais taillés ne souffrent pas de ce problème-là. C'est souvent ou toujours les tailles...
Quand on les taille trop,
voilà.
Ah oui.
Oui, ou ceux qui sont en haie. Donc quand on a un conifère qui est devenu roux, on le coupe tout de suite avant que l'ensemble de la haie ne soit atteint. Il n'y a pas de remède.
Cécile, elle vous demande ce que vous pensez des petites tondeuses sans moteur que l'on pousse.
Oui, avec les lames hélicoïdales, dès que l'herbe est un peu haute, on ne peut plus tondre. On trouve toujours que le jardin est beaucoup trop grand, même si on a que 50 mètres carrés, parce qu'il faut quand même pousser la petite machine. Oui, mais l'avantage, elle n'a pas de moteur, elle ne fait pas de bruit. Vous pouvez même tondre la nuit sans déranger vos voisins. Et là encore, même si elle est toute petite, c'est bien une tondeuse à gazon et non pas une tondeuse à pelouse. J'ai toujours pas l'explication pour le mot de la tondeuse à pelouse.
Xavier, lui, oh, il nous fait un petit peu de provocation ce 14 juillet. Il nous demande, les gendarmes doivent-ils être éliminés du jardin? On est d'accord.
On parle bien, j'espère qu'on parle bien, des Picoris apterus, qui sont ces petits insectes rouges, qui en fait sont des nettoyeurs du jardin. Ils se nourrissent uniquement de déchets, donc on les regarde, ils sont drôles, ils sont amusants. On les appelle aussi les soldats, ce sont des petites bestioles que j'aime beaucoup. On ne touche pas ni aux insectes appelés jardin, ni bien sûr à ceux qui nous permettent de rouler en toute sécurité.
Surtout le 14 juillet, mais tous les autres jours de l'année, on est d'accord, Alain.
Mais évidemment.
Un petit conseil lecture pour terminer.
Un sacré pavé, c'est une armée de contributeurs, tout ça sous la direction de Lucie Gauguin, Pascal Liévaux et Alain Salamagne, la fabrique du jardin à la Renaissance. La fabrique, c'est le terme employé pour définir tout ce que l'on construit dans un jardin. C'est un ouvrage parfait pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des jardins et c'est publié aux éditions Presse Universitaire François Rabelais.
Un conseil lecture. Merci beaucoup Alain Baraton. Je vous dis à la semaine prochaine pour
je
la main
verte. Je vais défiler immédiatement et je vous retrouve samedi prochain.
Je vous en prie. À la semaine prochaine.